jusqu'à 9h. Good morning business.
7h17 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre sujet, effectivement, c'est de garder la tête froide, même quand on réussit, même quand on lève des millions, même quand on s'introduit en bourse. Nicolas Chartier, bonjour. Vous êtes notre invité, cofondateur d'Aramis Auto. Aramis Auto, chiffre d'affaires d'1,76 milliard d'euros l'an dernier, 90 000 véhicules vendus. Vous écrivez un livre aujourd'hui avec votre cofondateur qui s'appelle Réussir en équipe. C'est aux éditions Erol. Vous avez cherché le Graal, mais vous êtes d'abord du coup content de votre réussite, content d'avoir gardé la tête froide?
Alors on est évidemment content d'avoir développé cette entreprise. Ce livre en fait vient raconter, c'est un témoignage qui vient raconter comment une start-up devient une scale-up et comment en devenant une scale-up, eh bien, on est confronté à tout un tas de problèmes, de difficultés qui peuvent nous faire perdre l'esprit de start-up et comment on fait pour garder cet esprit de start-up tout en grandissant puisqu'on est passé de 0 à 2500 collaborateurs et de 0 à 1,8 milliard de chiffre d'affaires. Donc forcément, comme vous l'imaginez, il y a beaucoup de défis pour passer ces étapes.
Vous insistez beaucoup sur le management, en fait, hein, parce qu'effectivement, et d'ailleurs ça s'appelle réussir en équipe, alors c'est pas que des mots, c'est vrai que vous avez l'impression que pour réussir et passer les différentes étapes, il faut tout le temps assurer la cohésion de l'entreprise.
Oui, c'est pour ça que ça s'appelle réussir en équipe. Le point de départ d'Aramis Auto, c'est une équipe, puisqu'on est deux fondateurs. C'est une équipe qui a envie de changer la manière dont les gens achètent leurs voitures.
D'occasion.
D'occasion, en offrant des voitures, en offrant plus de garanties, en offrant les meilleurs prix garantis. Et c'est aussi une équipe qui a envie de vivre une histoire d'entreprise différente, qui n'a pas envie, quand on sortait de l'école avec Guillaume, on n'avait pas envie, nous, d'aller travailler dans une grande entreprise. On avait envie de vivre une expérience d'entreprise différente. Et quand l'entreprise grandit, on est confronté, on a besoin de structurer, de mettre en place des procédures, de mettre en place tout un tas de choses qui finalement rigidifient l'entreprise et font qu'on tombe dans les travers de ces entreprises dans lesquelles on ne voulait pas aller et qui ne sont plus centrées sur le client. Donc il faut en permanence se réinventer et c'est ce qu'on raconte dans l'histoire.
Oui, mais est-ce que c'est pas totalement illusoire de vouloir rester en mode start-up, de connaître tout le monde, d'être toujours disponible? C'est pas possible, en fait.
Alors, évidemment, on ne peut pas, quand on est 2500, avoir la même manière de fonctionner que quand on est 50. Mais ce qui est important, c'est que on continue de garder, quand on est une entreprise de scale-up de taille importante comme la nôtre aujourd'hui, qu'on continue de garder cette orientation vers le client et que les collaborateurs sur le terrain. C'est pour ça qu'on parlait de management, parce qu'en fait, nous, on oriente les efforts vers donner le pouvoir aux collaborateurs, donner confiance aux collaborateurs et avoir confiance dans les collaborateurs pour qu'ils puissent prendre des décisions, prendre des initiatives pour servir les clients.
C'est l'art de déléguer.
C'est l'art de déléguer, c'est surtout comment on fait quand on grossit pour continuer d'avoir de l'initiative sur le terrain au plus proche des clients, puisqu'en fait on sait que toutes ces entreprises qui sont grosses ou qui grossissent finissent par avoir beaucoup de procédures, on vit tous l'expérience.
Alors comment vous faites? Vous faites comme Jeff Bezos, vous mettez la chaise rouge du client et vous lui parlez comme s'il était là? C'est quoi votre méthode?
On n'a pas la chaise rouge du client, les comités de direction commencent au service client, mais surtout on donne aux collaborateurs, on évite d'avoir des procédures rigides et on va donner aux collaborateurs la liberté de prendre des initiatives et on va pousser les collaborateurs à prendre des initiatives. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, quand on a un discours commercial, quand on a des vendeurs, nous on parle aux clients, on a des collaborateurs proches et on leur dit bah dis-leur ça et puis voilà. Et puis quand l'entreprise grossit, on dit bon bah quand même, on va écrire ce que l'on dit, puisque nous, on sait ce qu'il faut dire, et on va leur dire, voilà, tu vas dire ça. Ce qu'on appelle un script, communément. En fait, ce script, c'est extrêmement rigidifiant, et on se rend compte que si on donne ça à un conseiller commercial...
Il va parler comme un automate. Hein.
Exactement.
Ouais.
Et on n'a pas un service, on n'a pas une proximité avec le client, souvent, ça ne répond pas à la demande du client, et puis c'est extrêmement... désengageant ouais. pour un collaborateur.
Qu'est-ce que vous faites alors du coup?
Et donc ce qu'on dit, c'est au lieu de donner un script, on donne des orientations. On va leur dire, écoute, tu dois faire en sorte que le client soit content. Tu dois faire en sorte que tu répondes aux questions du client. On va pas lui dire, tu dois faire ça en 3 minutes. Tu as le temps qu'il faut pour le client. Certains clients voudront 10 minutes, d'autres clients ce sera 1 minute. Donc on va être beaucoup plus ouvert, faire confiance aux collaborateurs.
Ça veut dire accepter le plantage aussi. Hein.
Et l'aider exactement. C'est aussi leur donner confiance dans le fait qu'on va se planter, puisque finalement, quand on est une start-up au départ, on s'est beaucoup planté, et c'est en se plantant qu'on apprend. Donc c'est aussi dire, c'est pas grave, vous pouvez vous planter, c'est pas grave, se planter c'est un apprentissage, et on va vous supporter, on va vous aider pour apprendre quand vous allez vous planter.
Pourquoi vous avez écrit ce livre? Est-ce que c'est pour dire, regardez comment je suis beau, comment on est beau, comment on a réussi, ou est-ce que c'est parce que vous avez des pères qui vous régulièrement vous posent la question de savoir comment on fait et comment on grandit?
Alors il y a une histoire dans ce livre, on l'a pas écrit seul, on l'a écrit aussi avec Michael Ballet et Régis Medina, avec qui on a travaillé, qui nous ont aidés qui nous ont accompagnés, qui continuent de nous accompagner dans cette transformation permanente. Mm-hmm. Donc c'est une discussion au départ avec eux. Et puis évidemment, c'est vrai qu'au bout de 20 ans d'entrepreneuriat, c'est intéressant de raconter son histoire. Donc évidemment, c'est pour notre écosystème, pour nos pairs, ouais. Mais aussi pour les personnes de l'entreprise, pour nos collaborateurs, puisqu'aujourd'hui l'entreprise grossit.
Ouais, ils n'ont pas forcément l'histoire des 20 ans.
Voilà, on se développe dans de nouveaux pays, on fait des acquisitions dans les pays. Ce livre, il a été édité au départ en anglais. Et le fait de pouvoir le donner aussi à nos équipes et échanger, ça fait un...
On n'est pas aujourd'hui un entrepreneur qui a réussi si on n'a pas écrit son livre. C'est la base. Tout le monde écrit son livre et si possible avec beaucoup d'échecs dedans. C'est ce qu'on voit.
Écoutez, oui, c'est peut-être. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Vous verrez que c'est un vrai livre de témoignages et puis un vrai livre d'apprentissage. Je crois que ce qui est intéressant aussi quand on est entrepreneur, le fait d'écrire, ça contribue aussi au processus d'apprentissage pour soi-même. C'est-à-dire que on a l'habitude de dire l'apprentissage c'est de la théorie, de la pratique et de la restitution. Donc le fait d'écrire, ça nous permet aussi à nous d'apprendre, de progresser et de pouvoir passer les étapes suivantes.
Une question quand même de conjoncture, puisque vous êtes un gros acteur du véhicule d'occasion. On a vu que les prix commencent à fléchir un petit peu, en tout cas à arrêter de progresser. Est-ce que vous confirmez que le marché de l'occasion, là, est un petit peu sur un faux plat, peut-être?
Oui, ce qui est sûr, c'est que oui, ils commencent à baisser, ils ont arrêté d'augmenter depuis un moment. Alors après, ça dépend des marchés.
Bien sûr.
Et c'est une bonne chose, puisque nous, notre combat, c'est avant tout un combat pour le prix, puisque c'est le critère de choix numéro un des clients. Cette augmentation de prix pour nos clients, c'est quand même très douloureux.
En deux ans, il y a eu combien
en France, c'est à peu près 30%.
Énorme.
Et donc nous, on se bat pour aller chercher toujours les meilleurs prix. Là, si ça se détend un petit peu, tant mieux, ça aidera à offrir les meilleurs prix.
En volume, ça baisse aussi un peu, là, ou pas?
Alors, le marché, globalement, baisse. Ouais. Nous, vous avez vu que l'an dernier, sur le véhicule d'occasion, sur le groupe, on a fait 38% de croissance. Mmh. Mais c'est vrai que c'est un marché qui baisse, à la fois parce qu'il manque des produits, puis à la fois parce que les prix augmentant, à un moment, les gens n'achètent plus de voitures. Mmh.